Du 29 mai au 2 juin, le festival Son de Plateau a lieu à Montevideo, à l'initiative du GRIM. Son de Plateau, c'est l'occasion de décliner tous les aspects de la création sonore en lien avec la scène, qu'il s'agisse de danse, de théâtre ou de musique, et d'étendre cette notion scénique à l'audiovisuel, puisque la vidéo, le cinéma et la radio sont aussi présents dans cette programmation transdisciplinaire. En parallèle à ce festival, et avant la soirée en direct que Grenouille vous propose le 2 juin, nous avons rencontré Brigitte et Gaston Sylvestre, musiciens, interprètes notamment du triptyque de Georges Apergis qui est cette année à l'honneur dans la programmation de Son de Plateau. Leurs multiples rencontres, leurs nombreux voyages, leur expérience du son et de la scène vont être mis à contribution au cours de ces 5 émissions spéciales que nous vous proposons en parallèle au festival. Brigitte et Gaston Sylvestre, bonjour.
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 Merci de nous accueillir chez vous et de nous apporter votre expérience musicale sur un plateau. Vous êtes musicien, respectivement harpiste et percussionniste, mais votre expérience du monde de la musique est vaste, transversale, et on ne saurait la réduire à votre rôle d'instrumentiste. C'est précisément cette transversalité que je vous propose de mettre à contribution pour cette série d'entretiens que l'on ponctuera à l'occasion, bien sûr, de quelques écoutes. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une forme musicale qui est à la fois très connue et pas si connue que ça, puisqu'il s'agit du théâtre musical. Le grand public en connaît essentiellement l'aspect de comédie musicale, un genre qui a été autrefois très à la mode, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais au fond, le théâtre musical, de quoi s'agit-il ?
C'est une très vaste question. Je pense que le théâtre musical a pour essence l'opéra, que peut-être plus beaucoup de gens connaissent, mais enfin qui a quand même pignon sur rue. Une autre forme de théâtre musical qui était très en vogue, c'était l'opérette, qui est un peu moins connue maintenant, et pourtant il y a quelques chefs-d'œuvre à l'intérieur. En fait, le théâtre musical, c'est quoi ? Est-ce que c'est le théâtre musical ? Est-ce que c'est le théâtre instrumental ? Ou c'est la musique théâtralisée ? Je pense que une des premières pistes de ce mouvement, c'est peut-être liée à l'éclosion de la percussion contemporaine. Un percussionniste, quand il est sur un plateau, il acte parce qu'il a plein d'instruments autour de lui. Il a donc une présence physique sur le plateau qui n'était pas courante. Avant, on avait le théâtre instrumental qui existait. On peut remarquer, chaque fois qu'un pianiste rentre sur scène, il y a toujours un protocole qui est toujours fixé, qui est toujours de régler la hauteur de son tabouret, de s'essuyer les mains, etc. On voit le violoniste qui arrive, qui va régler la hauteur de son pupitre, le chef d'orchestre est en droit toujours du même côté, avec un protocole qui suit toujours la même chose, c'est-à-dire l'orchestre s'installe, il y a le premier violon qui vient, ensuite il y a le chef d'orchestre avec les solistes, tout ça c'est une espèce de théâtre. L'intérêt du théâtre musical, c'est essayer de détourner ça, c'est-à-dire de le pervertir, et ensuite, dans un deuxième temps, de donner au musicien acteur, c'est-à-dire celui qui acte sur un plateau, une fonction un peu plus complète de ce phénomène. C'est-à-dire que le musicien parle, le musicien peut chanter, le musicien peut bouger, le musicien peut traduire des éléments de théâtre qu'une multiplication de ces phénomènes par d'autres personnages ne pourrait pas rendre. À savoir, si je fais de la musique et que je parle, La dualité de ce phénomène, c'est-à-dire la dualité rythmique de faire la musique et la dualité rythmique de la parole, c'est une chose qui est antinomique. On ne peut pas résoudre ce problème. Donc, pour le résoudre, on va employer une technique, mais en fait, c'est pas une technique, c'est qu'on va essayer de mixer deux langages différents. Ces deux langages différents pervertissent l'un par rapport à l'autre. Si je mets un musicien et un comédien, jamais ils vont se pervertir. Donc c'est une espèce d'enrichissement ou un appauvrissement du théâtre. Ça, il n'y a que le public qui peut le dire. Mais disons que c'est une manière de pervertir et la musique et le théâtre pour aboutir sur une autre dimension. Voilà ce que je pourrais dire à propos du théâtre musical.
Je peux ajouter quelque chose?
Ben, t'as droit.
Je pense que dans le théâtre musical, il y a une fragilisation de l'interprète. Quand tu parlais, Gaston, de dualité entre la parole et le geste musical, l'instrumentiste est fragilisé parce qu'il rentre dans un art qui est celui du comédien ou éventuellement du chanteur s'il a besoin de se servir de sa voix, et que c'est un domaine qu'il ne connaît pas et qu'il faut qu'il apprenne à maîtriser. Et ça me semble important de souligner que un interprète de théâtre musical n'est pas forcément, il ne se prend pas en tout cas pour ni un comédien ni un chanteur par exemple, mais comme on pourrait dire une extension de son propre instrument, l'instrument l'harpe par exemple. Pour moi, si j'ajoute à l'harpe, j'ajoute de la parole, j'ajoute un geste, ça doit passer par l'intérieur exactement comme un comédien. Mais nous, on n'a pas la prétention d'être comédien ou chanteur.
Tel que vous le décrivez, il semble donc que cette forme de théâtre musical-là soit un peu un enfant du XXe siècle.
C'est un enfant du XXe siècle, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une explosion par rapport aux riches années 60-70 d'une direction différente de ce qui se passait comme mouvement musical de cette époque. C'est effectivement une interrogation qui est arrivée dans le langage. Moi, je me rappelle de la première fois où j'ai été confronté à cette situation. J'étais jeune étudiant au Conservatoire de Paris. Les concerts avaient lieu au Théâtre de l'Odéon. Et faut savoir quand même qu'à cette époque, chaque concert était un scandale. Il n'y avait pas de passivité publique. Il n'y avait pas de consensus. Quand le public était là, il était content ou il était furieux. S'il était furieux, il le disait et il le faisait savoir. Savoir qu'on s'est pris des tomates à travers la gueule, on s'est pris des boulons, on s'est pris des alertes à la bombe, etc. C'était pas une chose où on arrive, on n'a rien compris, on applaudit, mais mon Dieu que c'est beau et que c'est gentil. Donc c'était pas du tout ça à l'époque. Et donc, à cette fameuse soirée, il y a eu une création mondiale qui s'appelait Zonante de Mauricio Kagel, qui est un compositeur argentin qui vit en Allemagne. Et c'était une pièce qui devait se jouer excessivement pianissimo. C'est pour harpe, deux percussions, contrebasse et guitare. Et nous n'avons rien entendu parce que, bien sûr, comme étudiant, on était au poulailler, c'est-à-dire au dernier balcon. Et toute l'intelligence, ça, était en bas. Donc, on n'a rien entendu. À la fin du spectacle, ça a fait un chahut monstrueux. On a hurlé,
on a sifflé,
etc., etc. En bas, ça a poussé à tout rompre, parce que c'est eux qui payaient le festival, enfin, qui payaient les manifestations. Donc, ils étaient fastement contents. Et on a vu arriver un grand escogriffe sur le plateau, qui était Mauricio Kagel, qui a étendu les mains comme ça, et il a obtenu immédiatement le silence. Déjà, je me suis dit, oh là là, quel personnage. Et il nous a regardés en nous disant, je vous ai provoqué, et en bas, vous avez réactionné, je suis content, et il est parti. Et dans la seconde où il est parti, on s'est mis à applaudir, et en bas à siffler. Donc c'était une provocation. On a reçu cela comme une provocation. Par la suite, nous avons joué, mon épouse et moi, cette pièce, qui est une pièce extraordinaire. Et donc, il n'a pas composé ça là pour une provocation, mais il s'est servi de ce mouvement de foule pour montrer la provocation. À savoir que on n'est pas dans un consensus musical précis, on est dans une autre direction. Le domaine musical a provoqué chaque fois qu'il y avait un concert, et je dirais même chaque fois qu'on écoutait une pièce, c'était une proposition nouvelle, c'était un coup d'éclat, c'est un tonnerre dans le langage musical, que ce soit avec Berio, que ce soit avec Stockhausen, que ce soit avec Boulez, que ce soit avec Ligeti, enfin bref, avec Cage, j'en citerai comme ça tous les grands noms de cette époque. Chaque fois, c'était une provocation, chaque fois, c'était une direction nouvelle. Il n'y avait pas donc de d'école, je dirais, de précise de direction esthétique. Et la première fois que j'ai été en contact avec ce phénomène de théâtre musical, c'était donc avec cette pièce. C'est donc né de cette chose-là. Après, Kagel a fait énormément de théâtre musical, énormément de pièces dans lesquelles on a participé tous les deux. Ce mouvement est né un peu comme ça, je dirais. Mais d'une nécessité aussi, peut-être, de penser que la musique peut avoir un côté ludique.
Après Mauricio Kagel, un autre compositeur que vous avez rencontré et qui a été, je crois, assez marquant dans votre carrière, et doté lui aussi d'un grand charisme, c'est Georges Apergis. Peut-être quelques mots sur la manière et le moment où vous avez rencontré Georges Apergis.
Il est vrai que Georges, comme l'a dit Gaston précédemment, était en France dans les années 60. Moi, je ne l'ai pas toujours reconnu, non pas dans le sens de la reconnaissance d'un individu compositeur, c'est pas ça. Mais je ne me suis pas aperçue de sa présence. Donc, il nous connaissait déjà avant qu'on se rencontre. En tout cas, pour ma part, il a été à un moment donné de ma vie où j'avais besoin d'avoir des nouvelles compositions, et donc j'avais trois compositeurs auxquels j'avais décidé de téléphoner. C'était un acte assez difficile du reste, parce que c'est pas évident, téléphoner pour dire ben voilà, j'aimerais avoir une pièce nouvelle à mon répertoire. Et Georges a été le premier à répondre, et c'est le dernier volet du triptyque qui va être joué là justement au Grimm. Et là, on a vraiment, bon, je l'avais, après ça, on s'était rencontrés, et il m'a donné des ébauches, et puis j'ai travaillé les ébauches, et puis après ça, il a repris les ébauches, il m'a dit non, c'est pas ça qu'il faut que j'écrive, donc voilà. Et la rencontre avec Georges, à ce moment-là, je parle du travail, a été vraiment très fructueuse. Il aide beaucoup, dans le sens où il ne critique jamais. Si on se plante, c'est pas grave, parce que ça fait partie du travail. Mais l'aide, c'est le miroir extérieur de ce que nous faisons. Et très souvent, il dit, tu vois, à tel endroit, tu as fait un geste, mais ça, c'était très bien, il faut garder ça. Et ce geste, on n'en avait pas forcément conscience. Donc, c'est la personne qui aide et qui porte et qui vous porte jusqu'au moment où on devient grand et où on porte nous-mêmes la chose, le bébé. Voilà. Ça, c'était vraiment la rencontre pour moi d'une osmose. Voilà.
Georges travaille d'une manière, quand il travaille avec un individu, pas quand il travaille avec des grandes formes, avec l'opéra ou avec des grandes pièces, mais quand il travaille avec l'individu, Georges travaille avec le sens du partage. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'idées préconçues. Il a des idées préconçues, ça c'est vrai. Mais il a la capacité de dire « bien, eh ben, c'est complètement faux, c'est complètement raté, je recommence ». Et donc c'est une... C'est vraiment un échange pour lui. Le moment de la création avec un individu, c'est un échange. Je me rappelle d'une pièce que j'ai montée avec lui. J'avais trouvé dans son catalogue une pièce qui avait été éditée il y a très longtemps, qui s'appelle Graffiti, qui était pour un percussionniste solo, où il utilise évidemment la voix avec, mais il avait une orchestration de prévu, et puis il avait rajouté sur l'édition une autre phrase en disant « mais on peut proposer une toute autre orchestration ». Alors je revenais de Bali à cette époque, et j'avais un élève qui avait séjourné longtemps à Bali et qui travaillait le bambou. Alors j'avais demandé à cet élève, est-ce que tu pourrais imaginer, avec les devoirs qui sont à réaliser, une pièce qui serait faite qu'avec du bois, avec des inconnues quand même assez grandes, c'est-à-dire qu'il y a des glissando dans cette pièce ascendante, des glissando descendants, et des timbres très spécifiques. Et il m'a répondu, oui, oui, d'accord, je peux faire ça. Alors j'ai dit, écoute, il faudrait que ça tienne quand même sur 1 mètre carré, 1 mètre 50 carré, que je puisse accéder à tous ces mouvements, à tous ces jeux sur le bois. Il m'a dit, oui, d'accord, je vais faire ça. Et donc, il s'est lancé dans la recherche, et au bout d'un moment, il m'a dit, ben voilà ce que je te propose. Et il y avait déjà une structure assez volumineuse, je dois dire, le 1m50 était largement dépassé. Alors, je travaille cette pièce, je fais venir Georges. Oh, il me dit, c'est formidable, c'est extraordinaire ça, hein. Oh, ça me donne plein d'idées. Et est-ce que je pourrais avoir un petit oiseau dans un coin? Bon, je lui dis, pourquoi pas, je vais poser la question. Et donc, il me dit, en tout cas, je vais refaire la pièce. Alors, il refait la pièce, donc je retravaille la pièce, et en même temps, je demande à mon élève, il voudrait un petit oiseau dans un coin. Oh, il me dit, ça me plaît beaucoup. Et je vois arriver finalement une pièce dont la partie la plus haute se situait au moins 2,50 m, avec une envergure qui faisait à peu près 2-3 mètres de large. Et je me retrouve devant cet objet, donc je travaille, j'appelle Georges. Ah, il me dit, c'est formidable, hein, je vais refaire la pièce. Et chaque fois que je pouvais proposer une idée de, je dirais presque de sculpture, chaque fois il me disait, je vais changer la pièce. Donc c'est quelqu'un qui est, de suite, il sent qu'il y a une proposition, que cette proposition est plus riche que la proposition qu'il fait, donc il accepte, il refait tout. Et donc c'est vraiment un partage chez lui qui est total. Et quand on travaille avec lui, c'est chaque fois une ouverture qui, parce qu'on provoque quelque chose, vous mène encore un peu plus loin que là où vous avez imaginé être.
Vous avez souvent interprété et enregistré une pièce de Georges Aperghis qui s'intitule « Triptyque ». Peut-être vous pourriez nous expliquer en quoi cette pièce relève du théâtre musical justement ?
On va commencer dans l'ordre parce que la première pièce est Coup de foudre et ça concerne Gaston.
Alors, cette pièce, Georges, quand il a travaillé à une certaine époque, travaillait avec des musiciens particuliers en ce sens que pour lui, c'était ce musicien-là qui voulait à ce moment-là. Il a donc fait des portraits. Il a fait plusieurs portraits. Il a fait le portrait de Jean-Pierre Drouet, il a fait le portrait de Martine Viard, il a fait le portrait d'Edith Scob, il a fait le portrait de Brigitte, etc., etc. Et il n'a pas fait mon portrait, puisque j'avais cette pièce que j'avais travaillée, qui était Graffiti, qui s'est appelée finalement le Véléitaire. Donc, plutôt que de faire mon portrait, il a décidé de faire notre portrait. Notre portrait, en ce sens qu'il avait déjà fait le portrait de Brigitte avec Fidélité, qui est la dernière pièce de ce triptyque. Et donc, il a commencé par faire un solo pour moi, qui s'appelle Le coup de foudre. Et pourquoi faire un portrait sur nous deux? C'est qu'il a voulu faire un portrait de notre couple. Il est assez rare, quand même, qu'en musique, les musiciens durent très longtemps ensemble, mais nous, on dure. Et je ne pense pas que ce soit bientôt fini. Donc, il a fait notre portrait. Il a fait notre portrait en tant que couple. Donc, mon solo s'appelle Le coup de foudre. La deuxième partie de cette pièce s'appelle Compagnie, avec des coups de gueule, avec des...
Et Compagnie, c'est à deux, hein.
Oui, c'est un duo. C'est un duo, donc c'est un duo où c'est la vie courante avec les discussions et toutes les tensions que ça peut, que ça inclut. Et donc dans mon solo, il a fait un premier solo que je ne vais pas jouer là parce que quand on a travaillé cette pièce, et j'ai joué beaucoup cette pièce, un jour Georges est venu, il me dit « Faut que je te dise, Gaston, j'aime pas ton solo, j'aime pas ta pièce, je vais la refaire encore une fois. » Et donc il refait ce solo et c'est maintenant le solo que je pratique. Il n'aime pas cette pièce, la première chose qu'il a fait, parce que c'était pas assez fou par rapport peut-être à ma folie personnelle, si j'en ai une. Je pense que effectivement je suis pas tout à fait réglé dans tous les paramètres. Donc il a refait un solo où justement il a voulu pousser cette folie un peu plus loin avec l'introduction de l'électronique. Et quand il m'a dit « je veux mettre un peu d'électronique dedans », j'étais très inquiet parce que moi, l'électronique ne m'intéresse que si j'arrive à la pervertir.
Alors, lui, l'air hype, elle, le lui, là. Chip, l'œil, lui,
ses compagnies. Donc c'est la rencontre avec la harpe et la percussion. Mais la percussion, pour lui, il voulait un langage mélodique en même temps que la percussion. C'est-à-dire que le coup de foudre était l'instant, peut-être le moment de pulsion de l'individu, et le coup de foudre, le compagnie devait s'apparenter à un dialogue, et pour lui le dialogue peut se passer aussi sur le plan mélodique, et donc il a construit ce dialogue à partir du cymbalum, c'est-à-dire à partir de cet instrument qui est à cordes frappées, mais qui correspond avec en mélangeant les timbres et la harpe à une espèce d'osmose qui peut faire fonctionner un dialogue.
Il y a peu de théâtre, du reste.
Le seul théâtre qui existe...
Le seul théâtre est un théâtre musical.
Oui, c'est un théâtre musical, c'est-à-dire que c'est la transposition d'un dialogue sur des sons, sur la rencontre sonore, qui peut provoquer, chez l'auditeur, du moins je le pense, la réalité d'un dialogue, la réalité d'un échange de mots.
Mais est-ce que votre interprétation est elle-même théâtralisée? Je pense particulièrement à la gestuelle. Est-ce qu'il vous recommandait à cet égard?
Non, rien. Et du reste, on se regarde que très très peu.
Voilà, mais justement...
On se regarde que très peu.
Mais ces regards sont justement toute l'ossature de ce théâtre.
Oui, il y a 3-4 regards, comme il peut y avoir dans un couple, dans une vie à deux. Il suffit d'un regard pour que bon, la chose peut basculer dans un sens ou dans un autre. Et là, je pense que ce qui fait la force de compagnie, donc du duo, c'est justement le fait d'avoir très peu de regard, mais en même temps, les musiciens le savent, ça, quand il y a des complexités pour chacun et qu'on doit se retrouver absolument synchrone à un moment donné, après un long passage où chacun mène, j'allais dire chacun mène sa vie, mais on se retrouve, il n'y a aucun regard entre nous. C'est-à-dire que on est complètement à l'écoute et ça vient aussi dans le travail quotidien, si je puis dire. On est évidemment très à l'écoute de l'autre, mais sans jamais se regarder, sans jamais se donner un signe en disant « ça, c'est le premier temps ». Ça, ça n'existe pas dans le duo. Les regards ne sont que pour un passage bien spécifique où il y a vraiment... Voilà, on s'arrête, on regarde. Et puis chacun repart après ça dans son langage.
Justement, le théâtre musical dans ce duo... C'est justement qu'il n'y a pas de théâtre de musicien. C'est-à-dire que le musicien, quand il joue en musique de chambre, que ce soit en duo, en trio, en quatuor, il y a toute une communication qui passe par le geste pour synchroniser l'activité musicale. Là, il n'y en a pas. Et quand on écoute cette pièce, si on est musicien, on n'arrive pas à comprendre comment deux individus qui travaillent toujours avec des rythmiques totalement à l'opposé, ça veut dire que quand il y en a un qui est en ternaire, l'autre est en binaire, quand il y en a un qui fait des 5, l'autre fait des 6, quand il y en a un qui fait des 4, l'autre fait des 3, etc., etc., que ça part dans tous les sens, et on n'arrive pas à comprendre comment, à l'instant donné, c'est-à-dire dans la musique de Georges, ça se passe toujours au niveau de la triple croche, ces individus sont absolument synchrones, et donc ça correspond à, effectivement à une idée de couple qui est, chacun a sa personnalité, chacun a sa vie personnelle, et sur des instants qui sont, des propositions philosophiques, je dirais, qui sont communes aux deux, parlent exactement le même langage, en ayant chacun leur personnalité, chacun leur vie. Et ça, c'est du théâtre musical, parce que, justement, il a balayé tout le geste musical ordinaire de musique de chambre, pour n'arriver qu'à cette essence de quelques regards qui fait que ça éclaire toute la pièce.
Thank you.
Puisque nous parlons de théâtre musical, il serait peut-être bienvenu qu'on parle aussi de texte. Il est bien sûr question de compositeur, mais aussi parfois d'écrivain. Et je voudrais par exemple que vous évoquiez la rencontre avec un auteur contemporain, qui est Jacques Rebautier, qui lui aussi est doté d'un certain humour.
Tout à fait.
Tout à fait.
Tout à fait. Moi, je n'ai pas travaillé avec Rebautier. Je le connais bien, là n'est pas la question, mais je ne me suis jamais trouvée vraiment dans une ambiance de travail, Gaston, de création en tout cas. Gaston a travaillé avec lui et avec Michael Lonsdal.
J'ai travaillé avec, avec lui, j'ai fait Plage, qui est une espèce de moment musical qui est assez difficile à définir. Plage, c'est une pièce pour quelques musiciens et il y a justement Michael Lonsdal dedans. J'ai fait, je ne pourrais pas appeler ça un récital, mais disons que j'ai fait un parcours solo avec comment ça s'appelle, il a écrit les brèves, donc c'est chaque fois des toutes petites pièces, des fragments très courts qui proposent juste une idée et qui mènent cette idée en quelques mesures au bout, en jouant bien sûr comme il le fait sur les mots, notamment il y en a une qui s'appelle Qu'est-ce clair et qui commence en disant Qu'est-ce clair. Un peu d'eau, un peu de poussière. Donc c'est chaque fois, c'est des petites choses comme ça, des petits bijoux qui durent 30 secondes, qui jouent sur le mot qui est... Puis j'ai fait une autre chose un peu plus grande, un peu plus volumineuse, qui s'appelle son Requiem. Donc j'aime beaucoup ce personnage qui porte la dérision, qui porte la poésie surtout, hein, c'est plus que dans la dérision, c'est la poésie, parfois minimaliste, parfois d'une sensibilité extrême, et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est, borderline, hein, il est en dehors de la ligne. Juste à côté, mais vraiment tellement à côté qu'il est vraiment unique dans sa...
Oui, ça, il est complètement unique.
Il est unique dans sa recherche et dans
bien,
sa...
Il joue bien avec les mots. Il a une espèce de oui, facilité, si on peut parler de facilité, parce que ça aussi, c'est du travail, bien sûr. Mais il joue bien avec les mots.
Peut-être pour conclure ce premier entretien sur le théâtre musical, je vous demanderai volontiers comment est-ce que vous en appréciez l'avenir, qu'est-ce que vous en attendez pour le futur.
Avant de dire l'avenir, je voudrais revenir sur d'autres compositeurs qui travaillent là-dedans, et notamment un qui m'a fasciné, on a parlé de Kagel, qui est le grand maître de ce mouvement, avec des pièces faramineuses comme Zweimann Orchestra, que j'ai pas eu la chance de jouer, mais avec des pièces comme Dressure, que j'ai beaucoup joué, avec des pièces comme Exotica, avec des pièces comme... Il y en a tant. Je voudrais insister aussi sur un autre compositeur, un compositeur italien qui s'appelle Giorgio Battistelli, qui est un compositeur, jeune compositeur romain, que j'ai eu au tout début, il y a des années, comme élève. Et puis, il est arrivé un jour en me disant « J'aimerais vous écrire une pièce pour le trio », parce que je faisais partie d'un trio qui s'appelle le trio Le Cercle, avec Jean-Pierre Drouet et Willy Coquillat, pour lequel on a énormément travaillé avec Georges, avec Kagel, et donc il nous a dit « Je vais vous écrire une pièce », et il nous a écrit une pièce qui s'appelle Opéra...
Opéra Mundi.
Non, qui s'appelle Opéra, je ne sais plus exactement l'intitulé, qui s'appelle Jules Verne. Et il a imaginé de mettre les trois principaux personnages de Jules Verne, à savoir Lidenbrock, Ferguson et Nemo, au milieu d'une scène préfigurant un bateau, pour raconter et l'histoire de ces trois personnages à travers les trois romans, 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre et 5 semaines en ballon, en même temps en mélangeant la biographie de Jules Verne et notre propre biographie, et c'était un spectacle où il a fallu qu'on apprenne à chanter parce que c'est un opéra, donc on a pris des cours de chant pendant quelques semaine pour permettre à la voix de traverser une heure de spectacle où il se passe des choses absolument délirantes et complètement folles. Et ce personnage est un personnage, pour moi, qui est aussi une espèce de pierre angulaire du théâtre musical, à savoir qu'il a réalisé également une autre pièce que j'adore, qui est Opéra Mundi. Il a imaginé de prendre son village natal, il a pris les corps de métier de ce village, à savoir le paveleur, le tonnelier, le maréchal ferrant, le cordonnier, le pâtissier, et j'en oublie, et les a mis sur un plateau. Ils sont tous recouverts de voiles noires au départ, et chaque fois qu'ils soulèvent un voile, le corps de métier qui est dévoilé fait son métier. À savoir que le paveleur construit un dallage sur le sol en faisant une madone avec des pierres. Un autre va construire un mur, un troisième va construire un tonneau, un quatrième va construire le maréchal ferrant va faire fonctionner sa forge, le pâtissier va fabriquer les tagliatelles qui vont manger après en public. Et il met en scène tous ces métiers avec des gestes de ces métiers, avec le son de ces métiers. Et tout ça est accompagné par lui-même à la percussion avec un autre percussionniste et un chœur de femmes qui récite la litanie des scènes de ces personnages. Et c'est un spectacle absolument inoubliable.
L'avenir, c'est donc une inscription du théâtre musical dans la société, dans le quotidien, dans la quotidienneté.
On pourrait le dire, ça pourrait continuer comme ça, ce que vient de citer Gaston, ça pourrait continuer à se faire pour peu qu'il y ait un compositeur qui en ait l'idée et le savoir-faire. Ça, c'est quand même deux choses très importantes.
Moi, je dirais autre chose, c'est que l'avenir du théâtre musical ne passe pas et ne passe plus par l'Europe. Parce que à l'heure actuelle, je reçois énormément de demandes de renseignements de ça. Il y a des thèses qui sont écrites à l'étranger. Je parle au Canada, je parle en Asie. Et je reçois plein de compositeurs qui veulent écrire pour le théâtre musical. Mais ils sont taïwanais, ils sont japonais, ils sont coréens, ils sont brésiliens, ils sont canadiens. En Europe, le théâtre musical, je dirais, a fermé sa page. Alors Georges continue toujours son activité, mais je pense que c'est à peu près le seul maintenant. Alors ça vient simplement d'une chose, c'est que le théâtre musical, il coûte très cher. Il y avait un ministère de la Culture qui défendait la création. Ce ministère de la Culture ne fait plus son travail. À l'heure actuelle, pour moi, le ministère de la Culture n'existe plus. Nous n'avons plus de ministère de la Culture. Il ne donne plus les moyens de travailler pour faire aboutir ses œuvres et pour faire aboutir cette direction. Et puis je dirais aussi une deuxième chose qui est un peu plus, peut-être un peu moins correcte, politiquement correcte, je dirais. C'est que on a assisté à cette explosion dans les années 60-70 avec un Boulez qui a claqué la porte et qui est parti à l'étranger. Et puis Boulez est revenu en France, mais quand il est revenu en France, c'était vraiment par la grande porte. Alors il a créé l'ensemble intercontemporain et il a créé l'IRCAM avec énormément de moyens puisqu'il les avait demandés et c'était normal qu'on lui donne vu la dimension de ce personnage. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien il s'est passé que les compositeurs voyant cette institution et voyant le pouvoir financier que représentait cette institution, se sont dit, si on n'écrit pas en fonction de ça, on ne va pas être joué. Et donc, les compositeurs se sont presque auto-censurés pour rentrer dans ce créneau, et rentrant dans ce créneau, le théâtre musical était condamné. Alors, tout le monde pensait, par exemple, que Boulez était contre le théâtre musical. C'est totalement faux. Il entretient des relations très amicales, notamment avec Georges Aperguis. Ils se voient en permanence, ils parlent en permanence de leur création. Il n'est pas du tout contre ça. Sauf qu'un mouvement s'est établi qui, à mon avis, va prendre quelques temps pour se redresser. et où on se penche vers ces nouvelles technologies, vers ces nouvelles techniques. Je dirais que moi, cette technologie qui arrive, pour le moment, les compositeurs servent cette technologie, mais la technologie ne sert à rien aux compositeurs. Donc pour le moment, le théâtre musical, pour moi, en Europe, je dirais, il est entre parenthèses, il est tout à fait en bas de la vague, dans le creux de la vague, complètement. Il resurgira peut-être un jour, peut-être avec justement à propos de ces nouvelles technologies. Mais pour le moment, je dirais qu'il n'y a, aujourd'hui même, il n'y a aucun avenir dans le théâtre musical en Europe.
Mais moi j'ajouterais une chose, ce n'est pas la faute des compositeurs, parce que par exemple... Marie-Hélène Fournier, avec laquelle j'ai pas mal travaillé, et qui m'a écrit très jolie pièce, nous sommes trouvés dans la situation où financièrement, on ne pouvait pas assumer. Alors, on peut assumer des années. Une pièce de théâtre musical prend à peu près le même temps à l'interprète qu'au compositeur pour la coucher sur le papier. Si un compositeur met 9 mois, un interprète va mettre 9 mois pour la restituer. Et donc ce temps de travail, on ne le compte pas. On ne se le paye pas. On va dire que c'est notre métier. Encore que c'est quand même un peu discutable. Mais au moins qu'après, il y ait quand même un peu de finance derrière, ne serait-ce que pour pouvoir payer le metteur en scène, éventuellement un éclairagiste, parce que c'est quand même du théâtre, c'est de la scène. Or, la scène, quand c'est du noir, ça n'existe pas. Et malheureusement, je pense qu'effectivement, comme disait Gaston au début, je pense que c'est un problème au niveau ministère de la Culture. Il n'y a pas assez d'argent pour la création.
Au cours de cette émission, vous avez pu écouter des extraits de « Racket » de Mauricio Kagel, des extraits aussi de « Triptyque » de Georges Apergis, et on se quitte avec des improvisations aux arbres par Pablo Cueco. Rendez-vous demain pour la deuxième partie de ces entretiens avec Brigitte et Gaston Sylvestre.